Guillemette, bonsoir. Merci d'être avec nous à notre studio de La Garde pour une nouvelle émission au service des familles. J'ai rappelé que vous venez pour le magazine L'Épervier, le magazine des patronages que nous avons découvert avec Geoffrey Laurent. Eh bien, vous êtes avec nous ce soir pour cette émission. Vous nous amenez Inès Pélissier, c'est bien ça?
Oui, bonsoir Olivier, bonsoir chers auditeurs. Nous sommes donc très heureux avec L'Épervier de parler avec vous ce soir de l'éducation affective et sexuelle, donc avec Inès Pélissier, donc mère de famille de 5 enfants, docteur en philosophie et spécialiste de la première éducation affective et sexuelle. Également professeur au sein de l'Institut de théologie du corps, qui a accepté donc de parler avec nous ce soir de l'éducation affective et sexuelle et de ce défi à relever auprès de nos enfants et de nos adolescents. Bonsoir Inès.
Bonsoir.
Comme première petite question que j'aurais à vous poser, que souhaitez-vous là, comme premier mot, dire aux parents qui souhaitent aborder cette question de l'amour avec leurs enfants, sujet à la fois délicat, parfois déconcertant, difficile, émouvant? Qu'avez-vous à leur dire à ces parents?
Que c'est quelque chose de très heureux à faire, un moment de complicité et de confiance avec ses enfants, dont on a peur, alors qu'en fait c'est un moment vraiment heureux, joyeux. Simplement, il faut avoir les outils et une bonne vision de la chose pour le faire. Et j'ai beaucoup aimé entendre tout à l'heure qu'on est une merveille et que chacun doit devenir la merveille qu'il est, parce que je crois que le but principal de l'éducation affective et sexuelle, que j'appelle moi carrément éducation à l'amour, c'est d'aider nos enfants à devenir la merveille qu'ils sont. La merveille qu'ils sont depuis leur conception et la merveille qu'ils sont depuis bien avant la conception, dès avant la création du monde, ce moment où Dieu les a rêvés, les a pensés, les a désirés. Et donc j'aime beaucoup dire aux enfants d'ailleurs, tu es une merveille. Et je crois que tout enfant a besoin de l'entendre. Ça fait partie du message de l'éducation à l'amour.
Et cette merveille justement qu'est chaque enfant, vous parlez des outils à avoir pour leur faire comprendre et leur faire découvrir justement cette merveille qu'ils sont. Et quels pourraient être les outils, quel est le langage, est-ce qu'il y a une manière de faire plus appropriée, est-ce qu'il y a un temps pour le faire, parler d'amour, qu'est-ce que c'est que l'amour et d'où vient l'amour, d'où vient l'enfant?
Alors, vous posez énormément de questions.
Oui, beaucoup
en même
de questions.
je pense qu'on pourrait résumer la réponse en disant que l'éducation à l'amour consiste à raconter à l'enfant sa propre histoire. On lui explique bien sûr d'où viennent les bébés, mais en le faisant, on lui raconte son histoire, on lui raconte d'où il vient, on lui découvre ou redécouvre qu'il vient de l'amour. Et je pense que c'est le message fondamental de l'éducation avec les enfants, avec les petits. Et c'est pour ça que les parents sont les mieux placés. Les parents, évidemment, sont à l'origine de l'histoire de l'enfant, puisque l'enfant est né de leur histoire d'amour. Les parents sont ceux qui connaissent le mieux leurs enfants. On n'a pas besoin d'avoir un diplôme de sexologie, d'être un expert reconnu par un diplôme pour parler à ses enfants. Ça se fait très naturellement au fil de la vie, par un parent ou par l'autre. Ça dépend des familles. Souvent, c'est la mère qui est la plus proche au moment des soins qu'on donne aux enfants. Mais ça peut être le père, bien sûr. En avançant en âge et à l'approche de la puberté, ce sera bien que ce soit le parent du même sexe qui parle à son enfant, parce qu'il y a aussi une transmission d'expérience. Je suis moi aussi passée de l'état d'enfant à l'état d'adolescent et je sais ce que c'est et que ce n'est pas forcément facile et je peux t'en parler et te transmettre quelque chose que j'ai vécu moi-même.
Et est-ce que du coup, il y aurait un âge à partir duquel commencer, ou est-ce que un enfant trop jeune n'est pas forcément capable d'entendre son histoire, ou comment on fait les bébés, ou comment est-ce que qu'est-ce que c'est que l'amour?
Je crois que il n'y a pas d'âge. Autrefois, ou il y a peut-être 10, 20 ans, on faisait commencer cette éducation dans les livres dédiés à la chose à 6, 8 ans. Mais l'enfant de 2, 3 ans, qu'un enfant parle et se pose des questions et les pose, on peut lui parler du sujet, bien sûr. Le sujet n'est pas pollué en lui-même et on ne va pas du tout faire perdre à l'enfant son innocence, on va lui faire perdre son ignorance, c'est pas la même chose. Et protéger justement cette belle innocence de l'enfant par la révélation très progressive de la réalité de l'amour avec des mots toujours choisis. Plus l'enfant est petit, plus il faut des mots poétiques, ce qui ne veut pas dire qu'il faudrait parler de chou et de cigogne, parce que là on tombe dans la fable et le mensonge finalement. Mais on peut lui parler de la réalité de façon très proportionnée. Et ce que je propose, c'est un petit peu trois conversations pour des âges différents. Toute première conversation, en partant des observations de l'enfant qui voit qu'à l'école, à la sortie, il voit des mamans qui ont un gros ventre et puis une poussette avec un bébé dedans, peut-être sa propre maman. Et il pose des questions, donc on va lui raconter comme l'enfant est bien au chaud dans le ventre de sa maman, bien à l'abri, et qu'il entend son cœur avec toujours cette dimension de l'amour qu'on ajoute à la dimension simplement biologique, il ne dirait pas tout. Et on va lui raconter sa naissance, pas simplement sur le plan matériel, mais on va lui dire que dans le corps de la maman, il y a un organe, une partie, parce qu'organe c'est compliqué pour un petit, qui est réservé à l'amour, et c'est le chemin de la naissance des bébés dans le corps des jeunes filles et des mamans. Et donc on protège et on respecte beaucoup ce corps qui un jour sera capable, quand tu seras grande, à la petite fille, ou quand ta sœur sera grande, petit garçon par exemple, on respecte beaucoup ce corps qui sera capable d'attendre un bébé et de le mettre au monde. Et ton corps à toi de petit garçon, tu vas le respecter aussi beaucoup parce qu'un jour, ce sera le corps d'un homme et d'un papa. Et de cette façon, en même temps qu'on commence tout petit l'éducation à l'amour de l'enfant par des mots, on la commence aussi en lui apprenant les justes attitudes vis-à-vis du corps, pas de jansénisme, pas de puritanisme, ni le contraire, mais un profond respect pour ce corps qui est mon corps. On lui apprend que ton corps c'est toi, et donc tu as cette belle responsabilité de toi-même et de ton propre corps, et aussi de celui des autres, parce que le corps c'est beau. Et donc cet appel à la responsabilité, on peut le faire très tôt. Je dis même, et je le dis maintenant de plus en plus, que même avec un tout petit, je veux dire bien avec un bébé, il est très important de lui dire « tu es une merveille ». Il est très important, parce que d'abord c'est vrai, le lui dire, c'est lui montrer notre amour, notre respect, notre reconnaissance pour son existence. Et donc, tu es une merveille. L'enfant, la petite fille, le petit garçon a besoin d'entendre qu'il est une merveille parce que ça, c'est la vérité. Et en plus, ça va lui donner un très grand sens, presque inné, de la valeur qu'il a. Et ça va être comme une forme déjà de protection vis-à-vis des abus possibles. On ne peut pas protéger les enfants de ça en les mettant sous cloche, en les gardant à la maison, en ne voyant personne, en les mettant dans des écoles où on imagine qu'il ne se passe rien. Parce que la cloche, c'est illusoire et un jour, on en sort. Donc, le mieux, c'est d'éduquer les enfants par... à développer une attitude de profond respect pour leur propre corps, comme une conscience de soi et de sa valeur absolue. Et du coup, quand l'enfant est habité par ça, il est comme protégé de l'intérieur. Et si en plus on a commencé à lui révéler les secrets de l'amour, la manière dont il a été conçu, son histoire, son origine, on va faire que tout ce qui ne sera pas au niveau, il le considérera comme finalement bon pour la poubelle. Et il sera beaucoup plus préparé à rejeter les attitudes ou les contenus pervers. Et je pense que ça, c'est la meilleure éducation qu'on puisse faire. Et en la faisant, on instaure une relation de confiance progressivement avec l'enfant. Et cette relation de confiance qui fait qu'on peut tout se dire en restant chacun à sa place de parent, d'enfant. L'enfant comprend qu'il peut parler à la maison des parents parce qu'ils connaissent les sujets. Et ça, c'est très précieux pour l'approche de l'adolescence et même parfois avant, pour que l'enfant, s'il a été troublé par des contenus glauques ou des comportements inadmissibles, puisse en parler. Sache que ça, c'est moche et que ça ne correspond pas à ce qu'on lui a dit du corps et de sa beauté. Et ainsi, on favorise que l'enfant parle en cas d'abus. On sait que dans ces cas-là, évidemment, il y a comme un poids du secret qui étouffe l'enfant, une culpabilité alors qu'il n'est pour rien dans la chose. Et même face à une tentative, il faut que l'enfant puisse parler, puisse s'exprimer. Et pour ça, il faut une relation de confiance. Il faut que l'enfant nous sente accessible.
Donc le fait de justement de prévenir les abus ou les images détournées ou sales que l'enfant pourrait avoir à gérer, c'est justement prévenir ça en lui parlant d'abord du côté merveilleux et du côté beau de l'amour et de son corps pour qu'il puisse discerner lui-même que ça ne correspond pas à ce qu'on lui aurait dit. Et qu'il n'a pas à se soucier de cette mauvaise image qu'on lui renvoie, si j'ai bien compris.
Oui, et même plus profondément encore que ça, ce qu'on va annoncer à l'enfant, c'est quasiment une annonce quand on raconte à l'enfant d'où viennent les bébés. C'est très frappant de voir que chez les petits, ils prennent leur pouce, leur doudou, leurs yeux s'écarquillent, parce qu'en réalité, ils entendent leur histoire. Et donc, il faut revenir à leur propre histoire et leur dire, tu vois, c'est comme ça que tu as commencé à exister près du cœur de maman, grâce à l'amour de papa et de maman, même si cet amour, d'ailleurs, n'est plus ce qui arrive malheureusement à tant d'enfants. L'enfant doit savoir que cet amour a préexisté à son existence et que cet amour, il est devenu normalement, pas toujours, mais normalement, un amour paternel et maternel. Donc cet amour conjugal de l'origine peut-être n'est plus, et c'est très triste, mais d'abord il n'y peut rien, et ensuite ça n'empêche pas qu'il a été conçu dans l'amour et que cet amour de l'origine de ses parents continue normalement à se déverser sur lui comme amour paternel ou maternel. Et s'il manquait une de ces deux figures de l'amour, l'enfant a besoin des deux pour avoir une vision complète de l'amour, des deux manières humaines d'aimer finalement. Si une figure paternelle ou maternelle manquait à l'enfant, c'est très important de lui en donner une. Ça n'est pas forcément un éventuel beau-père qui peut-être n'est pas bien accepté, mais ça peut être un parrain, un oncle, un frère de la maman, si c'est le papa qui est absent, etc. Trouver quelqu'un qui a assez de maturité et de bonté pour jouer auprès de l'enfant ce rôle d'une figure masculine paternelle à laquelle pouvoir s'identifier pour grandir. Parce que l'enfant aura besoin de ça pour grandir.
Oui, donc vous dites que l'enfant, c'est ça, aura besoin de cette figure pour se voir garçon, pour se voir fille et pour pouvoir se comparer, se jauger à la mesure de cette figure un peu exemplaire ou en tout cas à laquelle il pourra s'identifier.
Oui, parce que l'identification, les psys l'ont beaucoup dit, je pense à Marcel Ruffaut par exemple, l'identification à son sexe par imitation d'une figure du même sexe qu'on trouve normalement à la maison, puisqu'on descend tous d'un père et d'une mère, donc on a besoin de ces deux figures. C'est ça qui va permettre à l'enfant de vivre cette identification et de vouloir grandir. Parce qu'il y a quelque chose qui va l'enthousiasmer, devenir grand comme papa, devenir grande comme maman. Vous voyez, il y a quelque chose là qui doit se jouer et un garçon ne peut pas devenir un homme en imitant sa mère. Et une fille ne peut pas développer des qualités féminines en imitant son père, même si son père est tendre et même si la mère pour le garçon est ferme et énergique. Bien sûr, ça va donner quelque chose. Mais ça n'est pas, si vous voulez, c'est pas pour rien que l'enfant a un père et une mère, en fait, à la base. Et ça lui apporte quelque chose, cette différence, ces deux façons d'aimer complémentaires. La mère va beaucoup plus donner la confiance en soi. Le père, c'est beaucoup plus l'estime de soi. Le père, c'est celui qui pousse l'enfant au large. Qui l'accompagne dans une forme de prise de risque, qui l'accompagne, qui le sort un peu des jupes de la mère. Le père a dit à un psy, c'est le séparateur, c'est celui qui aide l'enfant à aller vers le monde, à quitter maman, ce qui ne veut pas dire à la perdre, mais à s'ouvrir au monde extérieur. Et le père doit jouer ce rôle pour ses deux enfants, d'une manière différente pour le garçon et pour la fille, mais il est nécessaire. Et donc, cette figure paternelle, l'enfant en a besoin. Je pense que tous ces cas de violence dont les médias nous parlent, malheureusement, de plus en plus, dans les collèges, dans les lycées, c'est peut-être le signe d'une absence, pour l'enfant de conscience de sa bonne place dans la société, à partir d'une conscience de sa bonne place dans la famille. Quand le père n'est pas là, souvent l'enfant est un petit peu tout puissant sur le cœur de maman. Et donc, c'est un peu dangereux. Si maman ne fait pas attention, l'enfant peut devenir un petit enfant roi. Et quand vous mettez des enfants rois ensemble, ça ne donne pas des bons résultats. Les enfants ont besoin, comme les plantes, de tuteurs pour bien grandir.
Et justement, dans cet apprentissage petit à petit à cette identité d'homme et de femme, comment accompagner les enfants par rapport à leur pudeur et petit à petit au respect de leur corps? Ça, on peut leur en parler très tôt et leur faire comprendre très tôt que leur corps est une merveille et qu'il est fait pour aimer et pour donner la vie. Mais comment aussi les accompagner dans cette prise de conscience d'une certaine pudeur vis-à-vis de ce corps-là, qu'il est à la fois leur corps à eux, certainement à aimer, mais qu'on n'en fait pas n'importe quoi avec n'importe qui.
Alors ça, c'est un vaste sujet, parce que il faut tenir compte du caractère, du tempérament de chaque enfant, et aussi agir différemment selon qu'on pense à éduquer des petits garçons ou des petites filles. Contrairement à ce qu'on imagine, les petits garçons sont souvent très pudiques, plus que les petites filles, en grande partie parce que les organes génitaux sont extérieurs au corps et donc apparents. Et donc, ils éprouvent souvent, ça dépend après des individus, hein, mais ils peuvent éprouver souvent une gêne de leur corps devant autrui, parce que ce corps est déjà visible, en fait. Et je pense toujours à l'expérience qu'avait faite Neil, le fondateur anglais de l'école de Summerhill, qui avait eu pas mal de succès après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, dans cette école où on grandissait dans la liberté, selon les principes de Freud et Reich, Wilhelm Reich, du coup, les enfants étaient, et tout le monde était sommé de se mettre tout nu, l'été, puisqu'il faisait chaud pendant quelques semaines. Et donc, en fait, très curieusement, l'auteur qui raconte l'expérience de son école, dans un livre assez connu, constate et dit avec honnêteté que les petites filles se mettaient parfois nues, les petits garçons beaucoup plus rarement. Ça n'était pas du tout naturel aux enfants, et c'était beaucoup plus les professeurs qui se promenaient tout nus. Ce qui montre bien d'ailleurs, mais ça c'est un vaste sujet, que la nudité et le vêtement sont liées à la conscience de soi beaucoup plus qu'à simplement des temps et des époques de l'histoire et de la qu'on peut analyser, etc. Le vêtement n'est pas simplement le signe d'une pudibonderie, comme on l'a très souvent dit en se référant aux vêtements collés montés 19e, de l'ère victorienne, ou bien sûr qu'elle a une vision du corps assez négative, mais tout enfant a besoin qu'on éduque son sens de la pudeur par rapport à ce qu'il est. Un petit enfant hyper anxieux, par exemple, est très secondaire sur le plan de la caractérologie, n'a pas besoin, en général, qu'on le rende encore plus anxieux avec des demandes qui pourraient être excessives pour lui. Il a déjà une forme de conscience de son corps et il est peut-être mal à l'aise. Celui-là, il va plutôt falloir l'aider à être à l'aise, bien dans sa peau, de plusieurs façons, avec du sport notamment, et aussi une bonne éducation affective et sexuelle. Et à l'inverse, vous avez d'autres enfants, je pense à des petites filles par exemple, qui peuvent faire des pirouettes en petite chemise de nuit sans culotte dessous et qui d'ailleurs gênent leur entourage ou leurs frères. Elles n'ont pas conscience, c'est pas ni pervers ni même de la coquetterie ni rien, elles n'ont pas conscience de leur intimité. Donc là, il faudra un enfant qui n'a pas conscience de son intimité, il faut lui donner cette conscience parce que une pudeur juste qui n'est pas du tout la pudibonderie, le truc coincé 19e, là. Une pudeur juste, c'est ce qui va permettre à l'enfant aussi de protéger son corps, d'en manifester, d'en vivre le respect et de le demander aux autres. Et c'est très important, ça, notamment, pas seulement dans l'enfance, mais à l'approche de l'adolescence, quand vous voyez, par exemple, tellement de petites filles qui pensent que devenir une femme, c'est... prendre un look de Lolita, avoir l'air d'une friandise sexuelle, comme quelqu'un l'a dit, d'un objet finalement sexuellement disponible. Et alors les pauvres, elles se font avoir après dans les grandes largeurs, parce qu'elles pensent qu'elles vont trouver l'amour en adoptant ce look girly, aguicheur, et en réalité c'est plutôt le contraire. Et donc là, alors qu'une fille qui se respecte et qui manifeste tranquillement à autrui qu'elle, ben, on la respecte, sans non plus violence, mais de manière juste et ferme, c'est une fille qui va être bien dans ses baskets et qui n'aura peut-être pas besoin de MeToo.
Oui, je vois. Et d'un point de vue peut-être plus concret, enfin de cas particulier. Par exemple, pour des jeunes enfants, il y a forcément cet apprentissage donc de cette conscience de soi et de son corps. Mais comment réagir en tant que parent ou en tant qu'éducateur, mais plutôt en tant que parent, comment réagir face à des enfants qui se touchent et qui n'ont pas forcément conscience de ce qu'ils font, ou alors pour eux, ça n'a pas de connotation particulièrement morale?
Oui, en général, chez les petits, c'est quelque chose qui vient exactement comme d'autres sucent leur pouce. C'est un geste pour se rassurer et se sentir exister. Donc, c'est une habitude qui n'est pas moralement... vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas d'intention perverse derrière ça. Parfois, le discours qui est plaqué dessus n'est pas ajusté. Par exemple, quand on dit à l'enfant « oui, tu peux le faire, mais quand tu es tout seul », ou bien « ne fais pas ça, c'est dégoûtant », ben non, le corps n'est pas dégoûtant, mais il faut beaucoup plus donner à l'enfant le sens de la valeur de son corps et de son intimité sexuelle, de son intimité du corps, et petit à petit, il y a tout un tas de choses à voir là. Il y a déjà cette question de bien faire l'éducation affective de l'enfant. Une autre question très pragmatique, regardez si mon enfant n'a pas une irritation. Ça peut arriver, en fait, il faut être pratique. Hein. Ensuite, est-ce que mon enfant qui a pris cette habitude, je peux peut-être dans un premier temps arrêter l'habitude exactement comme je lui dirais, ne mets pas tes doigts dans ton nez. J'ai pas besoin de faire des grands discours pour dire ça. Bon. Respecte ton corps, ne mets pas tes doigts dans ton nez, prends un mouchoir ou respecte ton corps, Et ne joue pas avec tes organes sexuels parce qu'en fait, c'est comme un trésor. Et donc, plus il aura cette conscience de la beauté, de la valeur de son intimité, et moins il le fera normalement. Mais il faut accompagner ça. Est-ce que, par exemple, est-ce que l'enfant est très anxieux? Parce qu'un enfant très anxieux va davantage développer ce type de comportement pour se rassurer. Donc il faut peut-être regarder l'anxiété et la cause plutôt que simplement les symptômes. Voilà. Est-ce que dans d'autres cas, est-ce qu'il est possible, alors là il ne faut pas non plus s'affoler, mais c'est une question à se poser légitimement. Mon enfant aurait-il pu être attouché par une nourrice, un éducateur, n'importe qui,
Ou d'autres enfants.
ou d'autres enfants, et aurait-il développé une espèce de conscience du corps comme capable d'apporter un plaisir de toucher assez fort, qui n'est pas non plus l'orgasme puisqu'on parle d'un enfant, donc un enfant n'est pas encore pubère. Le but, si vous voulez, de cette éducation, c'est pas du tout une question de permis défendu, qui est très peu opérant sur le plan éducatif, l'interdit engendrant souvent la transgression, mais c'est beaucoup plus de le préparer à devenir un adulte ouvert aux autres. Parce qu'un enfant qui prendrait l'habitude de se toucher toute son enfance sans qu'on ne l'aide à sortir de cette habitude aura beaucoup de mal plus tard à ne pas s'installer dans la masturbation. Et le problème pour sa vie future de couple et d'adulte, c'est qu'en fait, dans une relation amoureuse, on est deux, on n'est pas tout seul. Et donc, il y a un grand risque de considérer l'autre, de le ramener finalement à une utilisation pour le traiter comme un objet et à vivre finalement la relation de manière fausse. Et donc, c'est important d'aider l'enfant à devenir capable de relations, d'ouverture aux autres. Et pour ça, il faut l'aider à se déplier, à sortir, si vous voulez, de lui-même. Voilà. Ce qu'on ne ferait pas si on le laissait développer ses habitudes qui ne sont pas non plus dramatiques, mais qui deviennent finalement des freins à l'amour pour plus tard, et qui donc, par rapport à ça, doivent être, comment dire, abandonner ses habitudes.
Merci beaucoup, Inès. Et autre question aussi un peu pratique, comment réagir face à un enfant 6, 7, 8 ans qui, dans la cour de récréation, fait des baisers d'amoureux à ses camarades et qui, en fait, peut-être veut imiter les adultes ou imiter ce qu'il voit ou ce qu'il ne voit pas d'ailleurs, mais qui, du coup, n'est pas forcément ajusté de sa part à lui en tant qu'enfant dans un lieu qui n'est pas non plus approprié pour ce genre de comportement.
Je pense que là, il faut, pour protéger l'ensemble des enfants, tous les comportements qui ne sont pas souhaitables doivent être c'est carton rouge, c'est non, en fait. Mais sans violence, simplement en disant tu respectes le corps des autres, tu respectes les autres élèves, tu ne leur imposes pas des baisers d'amoureux parce que tu es d'ailleurs beaucoup trop jeune pour ça et ça n'est pas adapté à ton âge, à votre âge. On peut être des amis, mais pas encore des amoureux, on est trop petit. Et donc c'est super d'être des amis, d'avoir beaucoup d'amis. Ou d'avoir de bons amis, mais on ne peut pas encore être des amoureux. Alors je sais que malheureusement, en fait, beaucoup de parents qui ne savent pas trop poussent leurs enfants à développer ces comportements, ça les amuse. Les écoles organisent des booms de fin d'année maintenant avec musique à fond et lumière, enfin bref. Et donc ça ne va pas aider les enfants. Ça va les faire finalement, ça va les propulser dans un monde qui n'est pas encore leur et qui ne correspond pas à leur âge. Mais je pense que c'est vraiment important de mettre des limites, comme on doit en mettre d'ailleurs à l'école sur beaucoup de plans. On lève le doigt pour parler, on attend que la cloche sonne pour sortir et que la maîtresse l'ait dit, etc., etc. Ça fait partie de la vie. Il y a un code de la route et il y a un code de conduite dans tout groupe social, à commencer par la famille. puis aussi l'école, bien sûr, où l'enfant passe beaucoup de temps. Et donc, il n'y a aucun complexe à donner ce code aux enfants, mais je pense qu'il faut accompagner ça dans ces cas-là, je pense que les éducateurs, la maîtresse, la direction, sans enfant plat non plus, ce serait bien de contacter dans ces cas-là les parents pour leur dire « Votre enfant a certainement des questions non résolues touchant à la sexualité, au corps, à l'amour. Il a peut-être vu des contenus glauques, sales. Certainement qu'il a besoin qu'on lui parle. » Voilà. Alors, encore une fois, ce n'est pas à l'école de le faire directement parce qu'en fait, c'est très difficile pour des étrangers à l'histoire de l'enfant de lui raconter sa propre histoire comme les parents peuvent le faire. C'est tellement merveilleux quand les parents le font pour l'enfant que c'est très dommage de se priver de ça. Mais l'école peut susciter des moments. Je connais une école qui l'a fait, commence à se développer. En début d'année, susciter dès la grande section de maternelle des moments où les parents, dans une matinée un petit peu de fête avec un gâteau, des bonbons, les parents sont invités à rencontrer leur enfant dans l'école pour lui parler de l'amour et des bébés. Et c'est un peu l'idée de faciliter les choses aux parents qui n'ont pas toujours les bons supports, qui ne savent pas toujours comment faire, qui remettent à plus tard parce qu'ils ont aussi leur pudeur et leur histoire. Et en fait, l'enfant, lui, a tellement besoin qu'on lui parle que l'école peut jouer ce rôle finalement d'intermédiaire entre les parents et l'enfant. Ça lui coûte moins cher finalement que de faire venir des intervenants et c'est beaucoup plus efficace en termes de résultats, aussi bien pour que la bonne nouvelle de l'amour soit racontée à l'enfant et son histoire en même temps, pour le protéger de l'intérieur face aux abus. Vous voyez, c'est pas juste une info qu'il faut délivrer à l'enfant. Et malheureusement, très souvent, l'éducation affective, c'est de l'info. Alors, il y a les infos anti-drogue, les infos sexualité. C'est pas très enthousiasmant, les infos. Alors que là, on parle de quelque chose qui est vraiment beau et c'est tellement dommage de passer à côté l'affirmation de cette beauté qui est en même temps une affirmation de la personne, de l'enfant, à ses propres yeux, qui aura beaucoup de conséquences très positives pour lui.
Oui, c'est bien.
Comme se protéger notamment des abus, vous voyez ?
Oui,
ou avoir le sens que, en cas d'abus, il y a toujours une effraction, mais l'enfant, dans sa tête et dans son cœur, s'il a eu cette éducation, il va entendre un non. Un non, ça ne va pas. Non. Et il doit apprendre à écouter son cœur. Mais pour ça, il faut avoir mis dans son cœur quelque chose à écouter. Voilà. Il faut lui avoir appris les choses, il ne peut pas les deviner.
Oui, ça veut dire qu'en fait, on ne pourra pas forcément le protéger de tout abus dans sa vie, mais on lui aura fourni la boussole intérieure qui lui permettra de savoir les voir, les débusquer pour les éviter en fait, par lui-même, parce qu'il aura pris conscience de cette beauté qu'il a en lui.
Pour les considérer pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire complètement à côté de la plaque et indigne de ce qu'il est, lui.
Oui, ouais, je vois. Et de manière un peu générale, quels seraient, si vous voyez, deux ou trois écueils à éviter quand on parle d'amour aux enfants, en tant que parents ? Quelles seraient les deux, trois peut-être maladresses à éviter ou en tout cas à contourner ?
J'en vois une principale, avoir un langage inadapté, un langage trop technique. L'enfant ne perçoit pas du tout son corps comme un objet d'étude froid et neutre. Et donc tout ce qui est trop abstrait, avec des gros schémas qui vous sautent à la figure, n'est pas adapté avec des enfants avant l'adolescence ou avant 10, 12 ans avant, si vous voulez, l'enfant est encore, pour le tout petit, dans l'imaginaire. À partir de 5, 6 ans, un peu plus capable de raisonnement, mais encore très petit, et à 8, 9, 10 ans, annonce de la puberté, il est déjà plus grand. On peut, mais même ces schémas doivent être expliqués toujours. Si vous voulez, le gros risque, à mon avis, c'est d'avoir un langage cru, biologique, vulgaire. Évidemment, c'est pas adapté, hein. Pas plus qu'on ne ferait une robe de mariée dans une toile à sac, vous voyez.
Oui.
C'est aussi peu adapté. Voilà. Donc, pour parler de quelque chose de beau, qui est l'histoire de l'origine de l'enfant et des bébés, pardon, ben, il faut avoir un langage qui soit beau et toujours rendre présente la dimension du cœur. Rendre présente la dimension du cœur. Parce que l'enfant a un cœur, et le cœur de l'enfant est vraiment assoiffé d'amour et de beauté. C'est ainsi que nous sommes faits pour l'amour. Et donc, y a un écho très fort dans son cœur quand on lui parle d'amour avec les bons termes. Et à contrario, quand on lui parle de façon vulgaire ou inadaptée, il y a un risque de scandaliser, de le blesser, et c'est trop dommage.
Oui.
Voilà, donc le grand écueil, je pense, ça n'est pas de parler trop tôt, parce qu'on ne parle jamais trop tôt aujourd'hui. Je pense qu'il faut commencer à parler avant toute socialisation de l'enfant. Même avant la crèche, il faut déjà commencer, quand il est vraiment petit, à lui dire « ton corps, c'est toi, ton corps est beau, c'est une merveille ». L'enfant entend ça, vous voyez, et ça, son cœur le reçoit positivement, joyeusement, parce que l'enfant est une personne et il en a une certaine conscience, même s'il ne l'exprime absolument pas. La pudeur, d'ailleurs, traduit sa conscience d'être quelqu'un et de ne pas vouloir que le corps soit réduit au rang d'objet. La pudeur comme attitude spontanée. Donc, voilà. Je pense qu'il faut entourer le sujet de beauté, et même avec des pré-ados, c'est pas parce qu'ils grandissent qu'il faut tomber non plus dans la trivialité qui les environne, donc ils n'ont pas besoin de nous pour ça. Au contraire, il faut, quand on leur parle de leur corps qui change, de l'événement qui arrive, qui est la fécondité, et avec elle la naissance aussi du désir, donc tout cet enjeu, les aider à vivre ce corps qui change, là, ils ont aussi besoin d'un langage en rupture avec tout ce qui peut être trivial, grossier, inapproprié, et qui parle mal de la sexualité.
Très bien, merci beaucoup Inès pour ces éclaircissements par rapport à toutes ces situations qu'on peut avoir, et par le fait aussi que il n'est jamais trop tôt, comme vous dites, ni trop tard pour parler d'amour, et que c'est nécessaire aussi de passer, de repasser, de dire et redire, parce c'est qu'on n'entendra jamais assez que nous sommes des merveilles, et que le corps est beau, fait pour aimer, et que là, on est tous appelés à cet amour.
L'enfant a besoin de l'entendre et de le réentendre, parce que aujourd'hui, on est devant ce paradoxe qu'il faut expliquer assez tôt aux enfants comment sont conçus les bébés. C'est la deuxième conversation que je propose. L'enfant, en fait, n'ayant aucune expérience du désir et de ce monde de l'amour charnel, ne comprend pas tout. Et donc, il faudra y revenir. Les parents pensent, quand ils ont fait cette conversation, que ça y est, ils ont coché la case. En réalité, il faudra y revenir, parce que l'enfant fait parfois une réflexion qui montre qu'il n'a pas vraiment tout compris. En fait, ce qu'il a compris, et c'est ça qui est merveilleux, il a compris, c'est que les parents sont bien au courant et que les parents sont proches, peuvent leur parler. D'accord. Et ça, c'est cette confiance, c'est merveilleux.
Merci beaucoup Inès pour tout cela. Et pour si vous avez, chers auditeurs, si vous avez des questions, ou si vous cherchez des outils ou des livres pour justement vous aider dans cette approche de l'amour, en tout cas pour en parler à vos enfants. Donc vous avez plusieurs possibilités. Donc Inès Pellissier de Rosas a notamment écrit deux livres, tout récent, le plus « Parlons d'amour à nos enfants » aux éditions Artege. Voilà, ou alors un peu plus court, un peu plus vulgarisé, « Dis maman, d'où viennent les bébés ?» aux éditions Saint-Paul. Voilà, donc si jamais vous avez besoin de support, n'hésitez pas à aller regarder ces œuvres. Et également, le magazine de l'Épervier a sorti un numéro, le numéro 4, qui porte justement sur l'éducation de l'affectivité. Tout un dossier, voilà, où on parle également de cette question, en apportant des conseils, des outils possibles pour parler justement d'amour aux enfants.
Et Guillemette, en parlant de l'épervier se rendra dès demain au Salon de la Liberté scolaire à Paris.
Oui, au Salon de la Liberté scolaire à l'espace Charenton à Paris, vous pourrez venir nous rencontrer, parler avec nous et voir ce beau magazine sur l'éducation intégrale au beau, au vrai et au bien que l'on propose à tout éducateur et en particulier aux parents.
Eh bien,
très belle revue, je confirme.
Très belle revue. Nous confirmons aussi que nous sommes ravis de faire connaître sur les ondes de Radio Maria. Un grand merci aussi à vous, Inès Pélissier, d'être venue sur nos ondes.
Avec joie.
Et merci, Guillemette. Avec joie.
Merci beaucoup, Inès.
Chers auditeurs, c'était notre émission au service des familles avec Guillemette Duréo de la revue L'Épervier. Il était question ce mois-ci de l'éducation affective et sexuelle. Vous pouvez retrouver cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr ou notre application Radio Maria Play.